entre Kapuscinski et Cappuccino.
Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre Kapuscinski et Cappuccino pour laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir le grand journaliste et écrivain Bruno Philippe afin d'évoquer son dernier livre, L'archipel des ombres, paru aux éditions des Équateurs. On écoute tout de suite l'interview. Bonjour Bruno Philippe et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour.
Alors Bruno Philippe, vous êtes journaliste, écrivain, vous avez notamment été correspondant du Monde en Asie du Sud-Est, basé tour à tour à Katmandou, New Delhi, Pékin et Bangkok. Vous avez également couvert l'Afghanistan dans les années 80 et 90 avant de devenir, à partir de 2004, correspondant du journal Le Monde à Pékin. Et vous avez publié plusieurs livres, dont Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée. Et vous venez de sortir un nouvel ouvrage, comme je le mentionnais un peu plus tôt, L'archipel des ombres, un récit de voyage aux accents nostalgiques de la grande ville de Medan, cette ville qui se situe à Sumatra, la grande île de l'ouest indonésien, en passant par Java et Jakarta et jusqu'à le grand est indonésien. Alors ce livre est une errance dans cette Indonésie que vous connaissez bien, un pays en plein essor aussi, en pleine phase de modernisation accélérée, mais qui voit aussi les traces de son passé s'effacer.
Oui, c'est exactement ça. Ça ne prétend pas être un livre qui soit un portrait journalistique ou politique ou social de l'Indonésie. C'est un livre tout à fait personnel, très subjectif, je revendique ma subjectivité, mais c'est vrai, c'est un livre qui est à la fois une description par moment de l'Indonésie d'aujourd'hui, qui est une puissance économique importante en Asie du Sud-Est, un pays qui compte, qui se modernise à vitesse grand V, et puis de l'autre côté, un portrait de ces sociétés qui évoluent, et qui évoluent parfois même jusqu'à devenir des ombres, d'où le titre, l'archipel des ombres, et qui sont en phase, donc sinon de mort annoncée, ou en tout cas de changement accéléré qui va les faire devenir, si je puis dire, les ombres d'eux-mêmes, les ombres d'elles-mêmes, pardon.
Alors vous l'avez dit, ce livre n'est pas journalistique et comme vous l'écrivez d'ailleurs dans ce livre, c'est une dérive non programmée vers des horizons incertains. Alors dans cette Indonésie que vous décrivez comme un éternel tsunami dont vous appréciez l'intranquillité, le caractère sidérant de son monde en perpétuel déséquilibre, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à faire ce travail littéraire dans ce pays plutôt qu'un autre de la région ?
Oui. Oui, j'ai habité 11 ans en Asie du Sud-Est, j'y ai parcouru de nombreux pays qui faisaient partie de ma couverture comme correspondant du Monde, de la Birmanie aux Philippines et de la Malaisie au Vietnam. J'ai une passion pour plusieurs des pays de la région. L'Indonésie est un pays à part, un pays vraiment singulier. Vous allez me dire, ils le sont tous, mais en tout cas, la singularité de l'Indonésie est quelque chose qui, je crois, m'a particulièrement touché. Et notamment, comme je le dis, plus j'allais vers l'Est, même si, vous l'avez rappelé, je commence à Medan, cette grande ville de Sumatra à l'Ouest, qui est une ville que je trouve assez extraordinaire, mais disons que plus je m'avançais vers l'Est, c'est-à-dire vers l'archipel des Moluques, en ayant dépassé Bornéo, et puis aussi les Célèbes, les îles qu'on appelait avant les Célèbes, qui s'appellent maintenant Sulawesi, eh bien plus j'allais vers cet extrême-orient de cet Orient, plus j'étais confronté aux réminiscences du passé colonial, mais aussi du passé en général, et plus je voyageais et plus je ressentais assez profondément cette nostalgie, parfois cette tristesse, cet air d'abandon qu'exude par moment cette Indonésie des océans, ces îles sous le vent, qui possède un charme parfois donc suranné, mais d'une extraordinaire intensité. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Indonésie. Oui, c'est pour ça que cette dérive entre guillemets, dérive à la fois personnelle, dérive du voyageur, est quelque chose qui, je pense, pouvait se déployer de la manière la plus poétique qui soit dans ce pays continent.
J'ai rencontré Enda, le marin, dans les ruines d'un quartier détruit que les bulldozers avaient ravagé quelques mois plus tôt. Enda, qui avait peut-être été deux tiers marin avant de devenir un tiers forban, m'a paru sous la forme d'un homme au crâne lisse et au torse massif. Une poitrine tombante et un ventre arrondi ne tardèrent pas à démentir l'impression de force que dégageait de prime abord l'individu. Son encre tatouée sur le haut du bras droit évoquait l'aventure, mers agitées, souvenirs de castagne dans un port oublié, coups de couteau dans la nuit. Mais Enda était un pauvre air dont le futur, s'il en avait un, était antérieur. Dans son genre, l'homme dégageait un certain romantisme. Il incarnait à son corps défendant l'un de ces clochards célestes qui peuplent les imaginaires d'aventuriers impubères. Je dois confesser ne pas y avoir toujours été insensible. En dépit de l'heure matinale à Sunda Kelapa, la température était déjà superlative. Située non loin des bâtiments à moitié en ruine que l'on trouve encore dans les vieux quartiers de l'ancienne capitale des Indes néerlandaises, Sunda Kelapa est l'ancien port de Batavia, nom de Jakarta au temps de la colonisation. Je levai la tête. Au-dessus d'Enda, assis sur le tabouret d'une baraque qui s'affaissait sur elle-même, la ligne d'horizon tremblait de chaleur. On voyait émerger les grues du port qui pointaient leurs squelettes de métal vers le ciel blanc.
C'était un extrait de votre livre, Bruno Philippe, des squelettes de métal vers le ciel blanc qui incarne, pour reprendre là votre formule, l'Indonésie en marche vers le riant avenir des temps modernes, où les malls à l'américaine semblent fleurir. Hein. Une tendance qui vous donne envie, hein, vous l'écrivez, de vous déguiser en prophète de malheur aux allures de prêtre fou pour annoncer là, une fin proche. Hein.
Oui, là ça fait partie de mes, des aspects un peu délirants de l'écriture que où évidemment je réactualise si je puis dire ou enfin j'écris sur une réalité qui n'était peut-être pas forcément tout à fait celle-là mais ce qui est vrai c'est que Jakarta la capitale en est vraiment l'exemple le plus extrême c'est le contraste qui existe entre ces gratte-ciels ultra modernes du centre de la capitale avec des bidonvilles de la périphérie avec ce port de Sunda Kelapa qui est en fait un port qui est situé tout près d'une ancienne zone bidonvillesque également qui a été détruite par l'ancien gouverneur de Jakarta pour laisser la place à la construction de nouveaux projets immobiliers. Donc il y a ce contraste saisissant entre ce Jakarta ultra-moderne, ce Jakarta des pauvres, et ce contraste qui évidemment illustre de la manière la plus spectaculaire qu'il soit les différences de revenus d'un pays qui est à la fois en expansion économique, mais où, comme d'habitude dans le monde dans lequel nous vivons, et parfois particulièrement en Asie, les résultats des succès économiques n'ont pas été distribués de manière, sans même parler égalitaire, mais ils ont été distribués de la manière la plus inégalitaire qu'il soit, entre les franges de la société. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu décrire, parfois donc de manière un peu délirante, quand je dis que j'ai envie de me transformer en prophète de malheur, parce que c'est vrai que quand on voit qu'une poussette pour bébé de bobo, si je puis dire, fait à peu près 3 ou 4 mois de salaire d'un pauvre, bon, il y a de quoi tout de même hurler dans cette Indonésie qui va justement vers ces lendemains qui chantent, et les lendemains ne chantent pas pour tout le monde.
Et d'ailleurs, une autre tendance à décrire dans votre livre est cette Indonésie qui dérive vers un islam bigot, ultra-conservateur et résolument fondamentaliste et parfois djihadiste, hein, vous dites, et qui semble occulter l'islam local plus modéré qui s'était mis en place dans la région. Comment l'expliquer, une tendance lourde hein, d'ailleurs pour cette région?
Oui, alors c'est un autre aspect de l'Indonésie contemporaine qui est très intéressant, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas énormément insisté sur ça dans le livre, c'était pas le propos. Même si effectivement j'en parle parce qu'il faut noter cette évolution qui est tout à fait remarquable. Alors pourquoi ? Bien, écoutez, bon, d'une part il y a l'évolution habituelle de tous les pays musulmans sur la planète quels qu'ils soient, qui ont tous été influencés par l'islam saoudien wahhabite, par le salafisme, et donc l'Indonésie ne fait pas exception. Donc il faut inscrire l'Indonésie dans un contexte plus large de l'évolution religieuse dans l'ensemble des pays du monde arabo-musulman. Et puis, de l'autre côté, vous avez, vous l'avez rappelé, vous avez cet islam qu'on appelle l'islam Nusantara. Nusantara, ça veut dire l'archipel en indonésien. Et cet islam Nusantara était un islam qu'on pourrait qualifier de modéré, même si le mot ne veut pas dire grand-chose, car il a été galvaudé. En tout cas, un islam singulier qui était un islam tropical. Je dis tropical au sens où c'était un islam beaucoup plus indolent, c'était un islam qui d'ailleurs perdure aujourd'hui où vous avez une grande association de musulmans indonésiens qui regroupe à peu près 70 millions de personnes et qui prône le fait qu'il faut contextualiser le Coran dans les pays où il est enseigné. C'est-à-dire que le Coran doit s'adapter aux réalités indonésiennes et ne doit pas être vu comme quelque chose qui a été revu et revisité par les salafistes saoudiens. Donc il y a des mouvements qui sont ces mouvements s'inscrivant dans l'exact opposé du djihadisme et d'autres mouvements indonésiens qui sont aujourd'hui islamistes au sens plus réducteur du terme, intégristes, extrémistes et évidemment dans la frange la plus extrême, minoritaire bien entendu, le djihadisme avec, on se rappelle, l'attentat de Bali qui a fait plus de 200 morts en 2002. Il y a des attentats à répétition, moins maintenant car les djihadistes ont été aux prises avec une répression policière très intense, mais il y a encore ces mouvements. Parfois on apprend que dans tel ou tel village, telle ou telle région, le responsable ou le militant d'une organisation djihadiste a été tué par la police, etc. Donc ça continue, il y a toujours cette tension donc entre des approches qui sont contrastées de l'islam.
Et peut-être qu'en est-il des confrontations intercommunautaires et interreligieuses? Elles n'ont plus rien à voir, hein, vous le dites dans votre livre, avec les confrontations d'alors sanglantes, mais est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui?
Vous avez encore, il n'y a pas si longtemps, c'est plus des émeutes interconfessionnelles ou intercommunautaires comme effectivement ça a eu lieu au début des années 2000, je le rappelle dans mon livre, notamment entre les aborigènes Dayak à Bornéo et qui sont animistes et christianisés, et des populations qui sont musulmanes qui venaient d'une petite île qui s'appelle Madura, qui est près de Bali. Il y a eu des heurts d'une violence terrible. Aujourd'hui, il n'y a plus ce genre d'émeute interconfessionnelle, mais vous avez eu parfois, alors là on revient au djihadisme, des attaques d'églises il y a encore quelques années, notamment à Surabaya, la grande ville portuaire de l'est de Java, des églises ont été attaquées par des djihadistes. Vous avez eu aussi dans les débuts des années 2000, je le rappelle également dans un chapitre qui est consacré à une ville majoritairement chinoise, vous avez eu également des émeutes anti-chinoises dans Jakarta. Les Chinois sont souvent les boucs émissaires des extrémistes nationalistes ou nationalistes musulmans ou islamo-nationalistes en Indonésie depuis des années. Notamment, il y a eu des massacres anticommunistes et donc les Chinois ont été associés aux communistes à l'époque parce que le gouvernement à un moment était proche de Pékin, qui ont fait des centaines de milliers de morts, je dis bien des centaines de milliers de morts au milieu des années 60. Tout ça, c'est fini. Ce qui reste, c'est donc ce spectre du djihadisme et malgré tout de même, des tensions entre certaines franges de communautés musulmanes et du christianisme, les chrétiens se sentant... Alors, ça peut aller jusqu'au fait que les chrétiens se sentent directement menacés par l'islam, qui est un islam quand même globalement plus agressif, avec la construction de mosquées, y compris dans des villes pratiquement totalement chrétiennes, mais l'islam est là, des mosquées sont construites, le muezzin appelle à la prière de manière assez ostentatoire, ce qui rend les gens assez furieux. Donc ça peut aller de tensions comme ça, ou la perception par les chrétiens, qui donc forment une très grosse minorité des 260 millions d'habitants en Indonésie, qui se sentent effectivement sous pression d'un islam revendicatif.
Alors vous pourchassez donc dans ce livre ces ombres, un pays fracassé, vous le dites, par la mondialisation. Vous partez notamment à la rencontre des Dayak, ce peuple que vous mentionniez, des anciens coupeurs de tête de Bornéo. Alors ce sont en effet des animistes qui ont été christianisés au début du XXe siècle, à qui le pouvoir, au nom de l'unité nationale, avait demandé de gommer les particularismes, et à qui aujourd'hui on demande l'inverse, mais qui au final malgré tout semble voué à disparaître.
Oui, c'est cette contradiction, cette tension-là qui est assez intéressante parce que, vous l'avez donc tout à fait rappelé, ces minorités, enfin ces populations indigènes, comme on dit en anglais et même en bahasa indonésien, la langue du pays. Donc évidemment, nous, la catégorie indigène en français sonne de manière plus étrange, mais en tout cas c'est comme ça qu'elles sont appelées là-bas. Donc des populations autochtones, on pourrait dire plutôt que sont les Dayak, qui sont embarqués aujourd'hui dans l'évolution générale de l'Indonésie et sa modernisation. Alors non pas qu'ils soient eux forcément sous une pression comment dirais-je, sous une pression spécifique de l'islam, parce qu'ils vivent en fait en général au centre de Bornéo, à la fois dans la partie indonésienne et la partie malaisienne. D'ailleurs, j'en parle aussi, parce que le livre a beau être sur l'Indonésie, je parle aussi de populations Dayak qui sont du côté malaisien dans l'état de Sarawak. Je rappelle que donc Bornéo est divisé entre trois quarts en Indonésie et un quart malaisien. Et donc ces populations, c'est un petit peu elles qui m'ont donné l'idée de l'archipel des ombres, parce que plus qu'aucune autre encore, m'a-t-il semblé, sont des populations qui sont écartelées entre un passé donc animiste, entre un récent passé de christianiser, qui parfois hésitent à quel saint se vouer, si je puis dire, selon les moments de l'histoire, notamment lorsque des émeutes très violentes ont éclaté, je le rappelais tout à l'heure, avec des populations musulmanes de Bornéo. Donc ce sont des populations qui sont tellement écartelées entre deux, je dirais peut-être pas deux visions du monde, mais en tout cas deux rapports à la religion et donc à la société, finissent par se mélanger ou se fondre dans une réalité qui les dépasse et qui risque, comme me l'a dit d'ailleurs un anthropologue lui-même Dayak et que je cite dans le livre, qui me dit en fait finalement nous sommes en train de mourir culturellement.
La pluie redoublait, nous étions réfugiés sous de grands arbres qui penchaient leur feuillage sur l'autel. Je ne savais plus à quels ancêtres me vouer. Tout ici n'était-il effectivement que le produit d'une vaste simulation prétendant reconstituer des croyances mortes, aujourd'hui remplacées par le culte de Jésus et de ses apôtres, bronze sculpté en surplomb sur le présent, yeux rivés sur l'horizon des temps modernes? Faux semblant, vraisemblance. En fait, me disais-je, avec une sorte de schadenfreude, notre monde ne partait pas simplement à la dérive. Il était la dérive même et scandait l'ultime hurlement du dernier des vivants. Autour de nous, dans la vallée, sur la route de Sakawang, des cris de jeunes Dayak en train de faire la fête montaient vers nous. On les entendait rire. Je me disais, en glissant sous la pluie, rirait-il bien qui rirait les derniers?
Et justement, vous mentionniez ces autres populations, toujours à Bornéo, mais cette fois-ci dans la fédération de Malaisie. Et vous allez rencontrer donc ces dernières tribus nomades de la Grande Île, les Penan. Alors c'est une minorité évidemment en proie à cette globalisation omniprésente et qui lutte notamment pour défendre leur domaine ancestral de vie, la forêt. Et vous assistez à une scène toute particulière, hein, d'exorcisme que vous décrivez dans votre livre, une véritable scène de film, hein, presque.
Oui. C'était une scène, une des scènes, je crois, les plus fortes à laquelle j'ai eu la chance d'assister dans mon voyage. C'est donc, je suis avec un militant local, lui-même Dayak, qui essaye d'aider les Penan, qui sont donc un sous-groupe des Dayak, hein, justement, enfin, vous l'avez aussi rappelé, à essayer de défendre leur espace traditionnel contre les massacreurs de forêts que sont les grands groupes de forestiers de Bornéo et qui ont littéralement détruit la forêt primaire de Bornéo aux deux tiers depuis une trentaine d'années. Et je suis un soir dans une masure avec un certain nombre de Dayak et ce militant avec lequel je voyage, et j'entends des murmures et je vois une femme que j'avais croisée, d'une cinquantaine d'années, que j'avais croisée plus tôt dans la journée, qui est en train de parler avec un homme, Dayak lui-même, qui est un chrétien, enfin comme ils le sont presque tous, qui est un diacre en fait, on pourrait dire, fait partie d'une église évangéliste, et qui lui a posé les mains sur la tête et récite des prières. Et le Dayak avec lequel je voyage me dit en fait cette femme est possédée par les démons depuis que sa fille a été violée par un groupe de Dayak ivres dans un village, et ce viol a eu pour conséquence que la mère est rentrée dans une sorte de folie personnelle et qui lui fait dire qu'elle est poursuivie par des démons dont les ombres sont constituées de cigarettes et qui parfois explose devant elle. Enfin, cette femme va très très mal, et le diacre décide de lui faire un exorcisme. Et alors j'assiste à cette scène extraordinaire aussi dans le contexte, puisque à ce moment où il lève les bras en l'air pour implorer Dieu, Terimakasi Tuan, qui veut dire en langue indonésienne et indonésienne, merci mon Dieu, Il lève les mains en l'air vers le ciel d'orage où des éclairs illuminent la nuit, une pluie diluvienne tombe sur la maison, un orage mais d'une violence extraordinaire éclate, et vous avez cet homme éclairé par moments par les éclairs d'orage qui a les bras levés au ciel pour implorer Dieu. Enfin, c'est une scène... je la décris dans mon livre, je laisse le lecteur se faire une idée par lui-même. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple de cette tension existante entre des gens qui sont à la fois chrétiens, mais qui n'ont pas abandonné leur racine animiste, puisque ce diacre d'une église évangéliste va me dire le lendemain, je crois que j'ai réussi mon exorcisme et que j'ai fait fuir les démons. Et bien sûr, vous allez me dire, au 19e siècle, il y avait des prêtres catholiques qui pratiquaient des exorcismes, c'est vrai. Mais j'ai senti dans sa phrase, dans ce qu'il m'a dit, j'ai senti que l'animiste, l'ancien animiste qu'il fut, ou que fut sa tribu, parlait en lui plus que le christianisme.
D'ailleurs, tout au long de votre livre, on sent cette tension d'identité multiple, en quelque sorte, et au final, cette peur de disparaître. Et au début de votre livre, vous citez Fernando Pessoa qui écrit ceci: « Vivre, c'est être un autre, et sentir n'est pas possible si l'on sent aujourd'hui comme on l'a senti hier. Sentir aujourd'hui la même chose qu'hier, c'est être aujourd'hui le vivant cadavre de ce qui fut hier, la vie désormais perdue. » Alors, il y a une sorte de fatalité dans cette citation. Et est-ce que cette fatalité, pardon, de devoir changer est aussi vrai pour ces peuples au final?
La phrase de Pessoa, je l'ai plus utilisée pour illustrer comment on se souvient de son propre passé, et notamment dans le voyage. Mais oui, vous avez raison, je vous avoue que je n'avais pas pensé à plaquer la phrase de Pessoa sur les réalités sociales et culturelles de ces tribus de Bornéo, mais pourquoi pas, effectivement. Est-ce qu'il y a une fatalité? Écoutez, je le crains. Je crains qu'il y ait une fatalité parce que ce que je décris chez les Penans, donc ces populations encore nomades de la région de Sarawak, c'est-à-dire en Malaisie où je me rends, on voit bien que même si j'ai marché avec certains d'entre eux dans la forêt et que on a l'impression qu'ils peuvent encore se déployer dans un territoire qui est assez vaste, en réalité, leur territoire originel se réduisent à la portion congrue, sont en train de se réduire comme une peau de chagrin, et le caractère inéluctable de leur futur, c'est précisément, on en revient au titre du livre, de devenir des ombres, ou en tout cas je le crains fort.
Et vous mentionniez d'ailleurs dans votre livre une autre notion, la notion de bout du monde, sans doute elle aussi promise à disparaître. Vous dites « la grande main de l'uniformité tenait le monde entier dans sa poigne, l'autre était devenu le même ».
Oui, voilà, alors ça c'est plus une règle, c'est plus une description de voyageur, avec toute l'ambiguïté que ça suppose, parce que évidemment, vouloir que les bouts du monde subsistent, c'est aussi vouloir que peu de gens voyagent, et que comme si j'étais moi le seul qui aurait la possibilité de voyager. D'ailleurs, comme on voit les choses, comme les choses se passent en ce moment, on voit bien que malheureusement ou heureusement, les bouts du monde risquent de redevenir des vrais bouts du monde quand le voyage ne sera plus, pour des raisons pollution collective, de pollution générale, les bouts du monde risquent de redevenir, donc encore une fois, peut-être avec... peut-être peut-on le souhaiter, peut-être peut-on le regretter par certains côtés. En tout cas, moi, en tant que voyageur du début du XXIe siècle, c'est certain que la notion de bout du monde telle qu'elle pouvait être en vigueur, je parle de Joseph Conrad, l'écrivain polonais, je parle d'Arthur Rimbaud qui a fait une dérive là-bas aussi à Java lors d'un de ses voyages avant de partir en Éthiopie, eh bien, ces poètes, ces écrivains décrivaient des réalités qui étaient vraiment, ce qu'on peut dire de manière un peu triviale, bout du monde. Et donc j'ironise en fait sur le fait que le bout du monde, ça n'existe plus puisque le monde n'a plus de bout.
Alors effectivement, on suit dans votre livre votre recherche des traces ténues d'Arthur Rimbaud quand il est parti s'enrôler dans la marine hollandaise et pour partir justement en Indonésie, une histoire assez peu connue. Et vous partez également sur les traces d'une autre figure littéraire, issue là du livre de Joseph Conrad, qui est donc inspiré de la vie d'un commerçant hollandais, William Charles Holmeyer, qui vécut à la fin du 19e siècle. Alors c'est des enquêtes presque passionnantes que vous menez dans ce livre, on va laisser le lecteur découvrir. Mais les ombres que vous suivez sont aussi parfois plus sombres et l'occasion d'évoquer notamment un épisode tragique du pays sous le règne de la dictature du général Suharto qui en 1965-66, vous le mentionniez d'ailleurs, organise un grand massacre anticommuniste. On parle de plus de 500 000 morts et 3 millions de victimes hein, et qui va régner jusqu'en 1998. Et vous rencontrez donc là une famille de la minorité chinoise qui à l'époque furent un choix singulier, n'étant pas communistes, eux pour autant, de prendre les armes et d'établir des camps de guérilla dans la jungle.
Oui, alors je faisais allusion tout à l'heure lorsque je parlais des difficultés intercommunautaires justement à ces émeutes, à cette répression extraordinairement sanglante de 1965. Et je me suis rendu dans une ville qui s'appelle Singkawang, qui est une ville de l'ouest de Bornéo, à majorité chinoise encore aujourd'hui. Et j'ai rencontré un vieux Chinois qui, à la différence des autres Chinois qui ont été malheureusement des victimes presque passives de la violence qui a été le fait de l'armée du dictateur Suharto et aussi des différentes institutions religieuses ou mouvements politiques qui se sont joints à la violence contre les communistes et donc incidemment contre les Chinois, contre certains Chinois, eh bien oui, ce Chinois et quelques membres de sa famille ont pris les armes, ont créé un mouvement d'insurrection, une insurrection tout à fait modeste, qui n'a eu pour conséquence, qui n'a eu aucune conséquence militaire contre le régime de Suharto, mais cet homme que j'ai rencontré par hasard à Singkawang m'a raconté sa vie dans la jungle jusqu'à ce qu'il soit fait prisonnier, passe des années en prison et soit finalement libéré. Mais c'est un témoignage non seulement assez bouleversant, mais un témoignage tout à fait singulier parce que, à ma connaissance, alors il y a eu des livres qui ont été écrits sur ce petit groupe d'insurgés par un politicologue de Hong Kong, mais sinon c'est un mouvement dont je n'avais personnellement jamais entendu parler, et c'est un épisode très peu connu de la reprise en main du pouvoir indonésien par le dictateur Suharto qui va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit délogé par un mouvement de protestation, une sorte de révolution en 1998.
Et Bruno Philippe, peut-être un mot sur la situation en Birmanie, un pays que vous connaissez également très bien, qui, on le rappelle, a connu un coup d'État en février 2021 et qui semble continuer de s'enfoncer dans cette crise violente.
Absolument. On a vu le 24 décembre dernier un massacre, un terrible massacre qui a été l'œuvre, si je puis dire, de la soldatesque birmane qui a brûlé vif une quarantaine de personnes dans un état proche de la frontière thaïlandaise. C'est un exemple parmi d'autres de la brutalité de l'armée de ce régime qui, donc, le 1er février dernier, ça va faire bientôt un an, a repris le pouvoir, a mis en prison les responsables politiques qui étaient les garants d'une sorte de nouvelle démocratie, ou en tout cas d'un processus de démocratisation qui avait commencé il y a une dizaine d'années, dont la célèbre Aung San Suu Kyi, ancienne dissidente devenue dirigeante de la Birmanie. Et en fait, depuis, c'est la catastrophe totale. C'est un État quasiment failli, comme on dit aujourd'hui. C'est un État où plus rien ne fonctionne. L'économie est à l'arrêt. Et non seulement les différentes guérillas ethniques qui... pour certaines d'entre elles, ont toujours bataillé ferme depuis l'indépendance du pays en 1948. Donc non seulement elles ont repris, pour celles qui avaient cessé le combat, ont repris les armes contre les soldats du régime, mais des populations non minoritaires, puisque ces guérillas-là, ce sont des guérillas qui bataillaient pour la défense des minorités ethniques, qui représentent quand même 30% de l'ensemble de la population de la Birmanie, eh bien, cette armée bataille aussi aujourd'hui contre des insurrections de l'ethnie principale, qu'on appelle les Bamars, qui donnent leur nom à la Birmanie. Et ces Bamars-là, une partie d'entre eux, se sont soulevés et ont créé des groupes d'autodéfense. La répression de l'armée à leur égard est d'une très très grande violence également. En tout cas, donc, la situation est je dirais qu'elle est pire que jamais, elle est pire qu'elle n'a jamais été, même au temps des dictateurs précédents, et Dieu sait si la Birmanie a été sous la poigne de fer de dictature pendant des décennies jusqu'au début des années 10 du 21e siècle, mais cette fois-ci, c'est toute la Birmanie, ou presque toute la Birmanie, ce qui n'était pas le cas forcément avant, qui est contre l'armée, qui est une institution qui est plus haïe que jamais, et le général Minong Leng qui a fait le coup, eh bien, il a fait un coup d'État qui est une catastrophe totale, et alors que l'armée avait déjà jouissait d'un pouvoir très important, et tout le monde s'est demandé pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il reprenne le pouvoir, puisque d'une certaine manière il l'avait déjà, mais ça ne suffisait pas, et il fallait se débarrasser d'Aung San Suu Kyi, il fallait se débarrasser de ceux qui étaient les tenants d'une vision plus démocratique de la politique birmane. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont été tuées. Il y a des centaines de personnes en prison, dont des journalistes, des dissidents, des écrivains, des poètes, enfin, un nombre vraiment considérable de d'opposants. Une tragédie.
Eh bien, Bruno Philippe, merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation.
Mais je vous en prie, c'était avec plaisir pour moi de pouvoir bavarder avec vous.
Alors, je le rappelle, votre livre « L'archipel des ombres » est donc sorti aux éditions des Équateurs. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le podcast, donc radio.fr ou radio.ve. Et encore merci beaucoup.